Bienvenue, voici l'essentiel de l'actualité francophone de ces derniers jours. Votre rendez-vous avec l'accent des autres, c'est avec France Inter, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, la RTBF et RFI. Et nous allons d'abord au Rwanda cette semaine avec vous, Andréane Mellard, pour évoquer les suites de la disparition de l'un des chanteurs les plus connus du pays. Kizito Mihigo est décédé cette semaine dans sa cellule en prison.
Et cela fait beaucoup réagir, des ONG notamment qui demandent des éclaircissements sur les conditions de sa mort. La police, elle, parle d'un suicide.
C'est un peu devenu sa spécialité, une spécialité suisse, Pierre-Henri Chauffat. La Confédération boucle ses comptes avec un résultat bien meilleur que prévu.
Et en plus, avec un bel excédent, 3 milliards de francs, 3 fois mieux que les prévisions souvent pessimistes du ministre des Finances.
En France, Éric Delvaux, le président Macron veut reconquérir des quartiers sous l'influence de l'islamisme radical.
Oui, et pour cela, il a un mot-clé, le séparatisme, avec lequel il veut en finir, et ça passe, vous allez l'entendre, par une série de mesures qui ne font pas forcément l'unanimité.
Toujours pas de gouvernement fédéral en Belgique, près de 300 jours après les dernières élections, Jacques Cremers. Le roi a désigné cette semaine deux chargés de mission, très vite rebaptisés pacificateurs.
Oui, tout est dans le mot. Après plusieurs tentatives infructueuses de former une majorité, le roi fait appel à deux hautes personnalités politiques, la présidente du Sénat et le président de la Chambre des représentants.
Enfin, au Canada, quand des membres d'une tribu autochtone de Colombie-Britannique manifestent contre un gazoduc sur leur territoire, ça débouche, Manon Glomaski, sur une crise nationale.
Une crise politique et économique, puisque des manifestations d'appui de d'autres groupes autochtones ailleurs au pays bloquent le transport ferroviaire depuis deux semaines déjà.
Le décès donc tout d'abord d'un chanteur rwandais cette semaine. L'affaire fait grand bruit, en particulier en Afrique centrale. Il était l'un des chanteurs les plus connus du Rwanda. Kizito Mihigo est donc mort en prison. C'est la police qui a annoncé son décès. Elle parle d'un suicide, mais beaucoup estiment, Andréane, que cette version des faits ne tient pas la route.
Oui, d'après la version officielle, Kizito Mihigo se serait pendu dans sa cellule à l'aide de ses draps. Il avait été arrêté quelques jours plus tôt dans le sud du Rwanda. Les autorités l'accusaient d'avoir voulu se rendre illégalement au Burundi voisin pour rejoindre un groupe armé. Depuis le début de la semaine et cette annonce, les voix pour demander des comptes au gouvernement rwandais se multiplient. Plusieurs ONG comme Human Rights Watch ou l'Observatoire pour les droits de l'homme au Rwanda ont appelé à l'ouverture d'une enquête indépendante, et sur les réseaux sociaux, certains vont même encore plus loin, jusqu'à accuser le régime du président Paul Kagame d'avoir fait assassiner Kizito Mihigo.
Oui, le chanteur qui a souvent été confronté aux autorités.
Oui, ce n'était pas la première fois que Kizito Mihigo avait affaire à la justice de son pays. En 2014, déjà, il avait été condamné à 10 ans de prison pour conspiration contre l'État rwandais. C'était juste après la sortie d'une chanson polémique dans laquelle il évoquait les représailles faites contre les Hutus après le génocide de 1994. Le chanteur avait finalement été gracié, puis libéré en 2018. Kizito Mihigo était pour beaucoup un apôtre de la réconciliation nationale au Rwanda. Ses chansons prônaient paix et réconciliation. La musique était pour lui un moyen, comme il le disait, de guérir le traumatisme du génocide.
L'accent des autres.
En Suisse, à présent, c'est une histoire de budget qui retient l'attention cette semaine. Pierre-Henri, la Confédération boucle l'année 2019 avec un bénéfice, et un beau bénéfice, 2,9 milliards d'euros. Des chiffres dans le vert, donc, et c'est récurrent ces dernières années.
Oui, plus de 30 milliards de francs suisses d'excédent en 12 ans. Le ménage fédéral est géré avec rigueur, avec pingrerie, diront ceux qui souhaiteraient que l'État investisse davantage. Mais il est vrai que le peuple suisse avait validé le principe d'un frein à l'endettement, un outil qui limite avec succès la générosité des cigales face au poids des fourmis à l'Assemblée fédérale.
Alors, question Pierre-Henri, qu'allez-vous faire finalement en Suisse de cette manne financière?
Eh bien, le débat renaît à chaque publication des résultats entre ceux qui veulent baisser les impôts et ceux qui sont prompts à la dépense. Mais la loi prévoit là aussi un mécanisme simple. Les excédents servent à amortir la dette.
Oui, amortir la dette, mais c'est à nouveau un résultat bien meilleur que prévu.
Exactement, régularité là aussi, comme si les prévisions budgétaires ultra prudentes incitaient le Parlement à la rigueur malgré lui. Le libéral radical Olivier Feller prend toutefois la défense du grand argentier Ouli Maurer.
Dans d'autres pays, les ministres des Finances passent pour des imbéciles parce que les déficits s'accumulent. Et puis Ouli Maurer, on a presque tendance à lui reprocher d'être un peu trop comptable suisse, n'est-ce pas? D'être un peu trop sérieux et très strict et de dégager des excédents. Je crois que la situation actuelle est réjouissante et suffirait d'un retournement de conjoncture. Et les pays comme les nôtres qui ont des dettes relativement faibles, eh bien s'en sortiront mieux, c'est certain.
Et le budget pour cette année table sur un excédent de 600 millions de francs. On prend les paris qu'on dépassera le milliard.
En France, on vous le disait, le président Macron veut donc en finir avec ce qu'il appelle le séparatisme, cet islam politique qui aurait pris trop d'influence dans certains quartiers, Eric.
Oui, en d'autres mots, il s'agit de lutter contre le repli communautaire et cela passe effectivement, a-t-il dit, par un combat contre le séparatisme qui gangrène la République. Pour faire simple, le communautarisme, c'est le repli social et le séparatisme, c'est le repli politique sous la tutelle d'un islamisme radical, l'ennemi à abattre selon Emmanuel Macron.
Il faut supprimer, entre autres, l'ENA. Je ne crois pas, sur ce sujet, au rafistolage, à la réforme un peu. Ça a déjà été tenté par à peu près tous mes prédécesseurs. Non, si vous gardez les mêmes structures, les habitudes sont trop fortes, les habitudes sont là.
Voilà, un discours de fermeté dans lequel Emmanuel Macron a bien pris soin de ne pas stigmatiser l'ensemble des musulmans qui vivent en France. Car un plan contre l'islam serait une faute profonde, a-t-il dit. Il ne s'agit surtout pas de trouver des boucs émissaires.
Ouais, contre l'influence de l'islam politique en France, Emmanuel Macron propose, Eric, un axe répressif et un autre préventif.
Oui, et ça va commencer par une reprise en main de l'enseignement des islams en France. Le chef de l'État veut progressivement mettre fin aux imams détachés, ceux qui viennent de Turquie, du Maroc ou de l'Algérie, pour en finir donc avec l'influence étrangère dans les mosquées françaises. Le but est d'avoir essentiellement des imams français formés en France. Et sur un plan plus préventif maintenant, l'Élysée souhaite notamment renforcer la présence des services publics dans les quartiers réputés difficiles et restaurer la méritocratie chère à Emmanuel Macron. Voilà donc l'esprit général de ce plan Macron contre le séparatisme. Certains ont vu dans ces mesures surtout de quoi séduire l'électorat de droite. À un mois des élections municipales en France. D'ailleurs, les élus de droite ont aussitôt dénoncé des mesures trop faibles. La droite aurait voulu entendre, par exemple, un discours plus musclé contre l'islam, en évoquant notamment le contrôle de l'immigration, mais de cela, il n'en a pas été question.
L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
La Belgique n'a donc toujours pas de gouvernement fédéral. Après plusieurs pré-formateurs et informateurs, le roi vient de désigner deux nouvelles personnalités. Elles vont à leur tour tenter de mettre ce gouvernement en place. Deux chargés de mission, très vite qualifié ou requalifié, Jacques, de pacificateur.
Oui, et tout cela prouve qu'au fil des mois, la situation est plus crispée que jamais. Le terrain politique n'en finit pas d'être exploré, labouré, retourné. Plusieurs informateurs ou préformateurs ont enchaîné les missions royales. Mais malgré cela, aucune majorité ne se dégage entre les partis flamands dominés par les nationalistes de la NVA et les formations francophones. Premier parti en Wallonie, le Parti Socialiste refuse explicitement toute alliance avec la NVA. Conséquence, le blocage est total et si cela continue, il faudra peut-être convoquer de nouvelles élections.
Oui, on n'en est pas encore là à ce stade, Jacques, mais quelle est exactement au fond la mission confiée par le roi à ces deux personnalités?
Très précisément, de prendre les contacts politiques nécessaires permettant la mise en place d'un nouveau gouvernement de plein exercice. On n'en saura pas davantage. La présidente du Sénat, Sabine Laruelle, et Patrick Dewaele, le président de la Chambre, font office de sages, et pour restaurer le calme entre partis, ils exerceront leur mission dans une discrétion absolue. Mais cette femme et cet homme, l'une francophone, l'autre flamand, tous deux libéraux, ont d'ores et déjà rendez-vous le 9 mars chez le roi pour un rapport qui n'est certainement pas
le dernier.
On va se quitter cette semaine le long des voies ferrées canadiennes parce que le transport ferroviaire de marchandises et de passagers dans l'Est du Canada est suspendu depuis plusieurs jours maintenant. Plus d'un millier d'employés du rail sont en chômage temporaire parce que des groupes autochtones manifestent, Manon, contre un projet de gazoduc dans la province la plus à l'ouest du Canada, c'est la Colombie-Britannique.
Et même si plusieurs membres de la tribu Wet'suwet'en appuient le projet de gazoduc qui passe sur leur territoire, une poignée de chefs traditionnels, eux, s'y opposent et paralysent le chantier. Lorsque les policiers de la gendarmerie royale ont tenté de lever la barricade, d'autres autochtones ailleurs au pays ont décidé de bloquer par solidarité des voies ferrées, entre autres la principale ligne de transport par rail entre Toronto et les provinces de l'Atlantique, ce qui a mené à l'annulation des trains de l'Est. Et donc, déjà, on commence à vivre des problèmes d'approvisionnement de certaines denrées comme le gaz propane.
Voilà, on l'a compris, un impact économique donc, Manon, mais aussi un impact politique.
Le premier ministre Justin Trudeau a annulé un déplacement à l'étranger pour s'occuper de cette crise, mais n'a encore fait aucune proposition concrète. On va écouter sa déclaration solennelle au Parlement.
Aux gens qui subissent les conséquences des barrages et des manifestations, vous traversez des moments difficiles. Sachez que notre gouvernement travaille fort pour trouver une solution. Notre priorité est de résoudre la situation de manière pacifique, mais aussi de protéger notre pays comme un État de droit.
Justin Trudeau se fait reprocher de ne pas savoir gérer une crise. L'opposition l'incite même à laisser les policiers démanteler les blocus, alors que lui veut une solution pacifique qui ne compromettrait pas la réconciliation du Canada avec les peuples autochtones, qui est une de ses politiques phares. En 1990, Olivier, un policier québécois, avait perdu la vie lors d'une intervention pour démanteler une barricade des Mohawks, et la crise s'était prolongée tout l'été.
Merci beaucoup, Manon Globinski. Merci à tous. L'accent des autres va se refermer ici avec Radio-Canada, avec la radio-télévision suisse, RFI, France Inter et la RTBF. C'était l'essentiel de l'actualité francophone de ces derniers jours. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine à la même heure.